Peut-être que certains d'entre vous, en entendant dire qu'il allait avoir un temps de prédication, vous avez pris peur. On a eu beaucoup d'informations ce matin. Merci beaucoup, Marc, pour la présentation de Portes Ouvertes. Alors, je vais essayer d'être la plus courte possible et juste de vous donner quelques petites clés. Comme a dit Jean-O, je travaille avec une organisation qui s'appelle Imago Dei. C'est un média et ce qu'on fait avec ce média, c'est de l'apologétique. L'apologétique, c'est quoi ? C'est la défense de la foi, la défense raisonnée de la foi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut expliquer ce en quoi on croit. Hier, j'ai fait un atelier ici, il y avait certains d'entre vous qui sont là ce matin qui étaient à cet atelier. Et en gros, voilà ce que j'ai essayé d'expliquer, c'était les différents moyens qu'on peut avoir pour essayer de comprendre en tant que chrétien pourquoi on croit en l'Évangile. Et essayer d'expliquer à des personnes qui ne connaissent pas l'Évangile ou n'y croient pas, pourquoi ça a du sens. Et une des questions qui revient assez souvent, ça va être le problème du mal et de la souffrance, formulé de différentes manières, mais aussi parfois le mal et la souffrance tel qu'il est présenté dans la Bible. Et vu que ce matin on a eu un rappel de à quel point énormément de personnes dans le monde souffrent pour leur foi, et on a été encouragés à prier, à passer du temps dans l'intimité avec Dieu pour soutenir ces personnes-là, pour les accompagner, comment est-ce qu'on fait quand après on ouvre la Bible pour chercher des réponses et pour chercher du soutien, et on voit un Dieu qui parfois commande de la souffrance, commande des meurtres, commande des guerres. Si vous avez lu récemment l'Ancien Testament, ou si vous avez des souvenirs de certains passages dans des livres comme Deutéronome ou Lévitique, ou encore les Juges, vous vous souvenez qu'il y a des passages assez compliqués où on est face à un Dieu qui ordonne des massacres. Et moi je me demande, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver de l'espérance là-dedans ? Parce que si c'est horrible ce qui se passe en Afghanistan, en Iran, au Pakistan et dans plein d'autres pays, comment est-ce qu'on peut trouver de l'espérance et des réponses en un Dieu qui va commander le même genre de choses horribles ? Donc ce matin, en quelques mots, j'aimerais vous donner quelques clés d'apologétique, c'est-à-dire de défense de la foi, de compréhension de ces passages difficiles. Donc, comment est-ce qu'on fait pour comprendre les guerres et les génocides, surtout ceux qui semblent commandés par Dieu lui-même ? Alors, dans la version longue de ce que je vous aurais proposé ce matin si on avait beaucoup de temps, on aurait fait énormément on aurait regardé tous ces passages dans le détail, on aurait cherché les différentes réponses que différents penseurs auraient apportées à ces réponses, à ces questions, pardon. Et ensuite, on aurait découvert ce que dit la Bible dans son ensemble. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et que j'ai vraiment envie de vous laisser avec des clés, mais surtout avec une espérance, on va directement passer au point 3. Différents passages auxquels je fais référence, vous pouvez les trouver dans le tout début de la Bible, quand on se replonge dans cette grande histoire où le peuple hébreu, qui a été esclave en Égypte pendant 400 ans, est miraculeusement libéré d'Égypte et va dans le désert pendant 40 ans. Et ensuite, ce peuple-là, dirigé par Moïse, arrive aux portes de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Ils se disent « Chouette, enfin, on a un pays à nous !» Et là, Dieu dit « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Guirgaziens, les Amoréens, les Cananéens, les Pharésiens, les Édiens et les Ébugiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction. » Ce petit extrait-là provient de Deutéronome 7. Alors, on ne va pas regarder l'ensemble des passages. Et vous pouvez aussi retrouver dans Deutéronome 20 ou dans Josué 6 et 8 un petit peu des détails de cette situation historique, de l'entrée du peuple hébreu aux portes de Canaan et de ce que Dieu semble dire. Le terme voué à la destruction en hébreu, c'est le terme Herem, H-E-R-E-M. Et ce que ça veut dire, Herem, c'est la destruction totale d'une nation. En d'autres termes, un génocide. Le fait de détruire complètement l'ensemble des membres d'une nation. Alors si on a l'habitude de lire ces passages-là et de lire la Bible un petit peu rapidement avec son café le matin, pas trop réveillé, on peut passer assez rapidement sur l'horreur en fait de ce qu'on est en train de lire. Et je pense que c'est juste de trouver que c'est horrible et de se demander mais comment Dieu, qui est censé être le Dieu d'amour dont on a parlé depuis ce matin, en qui on va chercher l'espérance, ce même Dieu qui a dit « tu ne tueras point » et qui en a fait un des deux commandements, comment est-ce que ce Dieu-là peut commander non seulement des meurtres, mais en plus des génocides, c'est-à-dire le meurtre de ces personnes qu'il a lui-même créées par amour? Si ça ne vous choque pas, c'est pas normal, il faut que ça nous choque. Mais la bonne nouvelle, je pense, et c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail d'apologétique avec donc l'organisation avec laquelle je travaille, c'est qu'on peut trouver des réponses et que quand on regarde la Bible dans son ensemble et quand on regarde vraiment au caractère de Dieu, on peut essayer de comprendre même ces passages de l'histoire qui nous semblent compliqués. Donc, il y aurait plusieurs solutions pour essayer d'aborder ces passages. On pourrait décider de séparer Ancien et Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il y a le Dieu de l'Ancien Testament, lui il était méchant. Puis il y a le Dieu du Nouveau avec Jésus qui dit « vous tendez l'autre joue » et lui c'est un petit peu plus acceptable. Il y aurait l'option de rejeter la Bible et le christianisme et Dieu complètement parce que ça nous fait moins nous poser de questions et c'est peut-être d'une certaine manière plus simple. Ou alors, il y aurait la tendance de faire notre petite tambouille, et puis dès qu'il y a un passage compliqué, on le laisse de côté, et puis on se concentre sur ce qu'on comprend mieux. Ce qui est, je pense, une manière de faire tout à fait humaine et compréhensible. Surtout si on lit la Bible avec un café le matin, pas trop bien réveillé. Ce matin donc, je voudrais vous laisser, pas ces options-là, mais trois principes pour essayer de comprendre ces passages difficiles. Et est-ce que mes super champions de la technique, vous voulez bien mettre les trois principes qui devraient être plutôt vers le milieu ou la fin pour comprendre ces annonces difficiles? Ok, c'est là. Alors ça, je vais vous laisser avec vous en essayant de vous donner quelques détails, hein, bien sûr, en quelques mots. Mais c'est ce que j'aimerais vous laisser pour vos propres lectures dans les jours, semaines, mois, années à venir. Moi, c'est des passages qui m'ont aidé à mieux comprendre l'Ancien Testament et aussi à mieux comprendre le Nouveau, à mieux comprendre la révélation dans son ensemble, à mieux comprendre la Bible et surtout à mieux comprendre Dieu et à développer ma relation avec lui. Donc j'espère de tout cœur que la prochaine fois que vous vous retrouvez face à un passage compliqué ou que vous avez une personne en face qui dit « Oui, mais ton Dieu, là, c'est bien sympa, mais moi j'ai lu des passages où il dit des choses horribles, j'ai pas envie de ce Dieu-là. » Ma prière, c'est que vous puissiez vraiment à ce moment-là avoir les clés pour vous, pour trouver l'espérance et pour votre conversation avec la personne en face, pour essayer d'avoir des clés pour lui répondre. Donc face à ces passages difficiles, je vous partage ces trois principes. Le premier, la guerre comme jugement, comme annonce de jugement. Le deuxième, le langage militaire comme un code à déchiffrer. Et le troisième, la Bible comme révélation progressive. Très vite, sur chacun de ces principes, il est vrai que tout d'abord, la guerre, parfois, dans l'histoire de l'Ancien Testament, dans l'histoire du peuple de Dieu, la guerre apparaissait comme un moyen que Dieu avait pour annoncer son jugement. Et des théologiens vont mettre en exergue le fait que ces fameuses nations, les Guergasiens, les Cananéens dont on parlait tout à l'heure, avaient fait des choses telles qu'il fallait qu'il y ait un jugement. Et le jugement était cette guerre. Il y avait plein de guerres dans les différents peuples de la région. Et Dieu utilisait ça comme jugement. Mais très souvent, on voit que la guerre, c'est pas juste les Israélites qui vont la faire contre les autres nations. Cette guerre comme annonce de jugement va aussi être contre les Israélites. Et c'était toujours, on le voit dans la Bible, une annonce de jugement. C'est-à-dire que Dieu annonçait, il va y avoir des guerres, il va y avoir un jugement, mais il donnait la possibilité que les gens se tournent vers lui et l'acceptent. C'est comme quand, je me souviens, ma maman disait toujours à mon petit frère, quand elle faisait cuire quelque chose dans le four, « Nicolas, si tu mets tes doigts sur le four, tu vas te brûler. » L'annonce de jugement, c'était « tu vas vraiment avoir très mal et tu vas avoir une brûlure. » Mais il y avait la possibilité que tout simplement, ils ne mettent pas la main dessus. Dieu, quand on lit certains passages, on peut avoir l'impression qu'il est complètement pour les Israélites et complètement contre ceux qui ne sont pas Israélites. Et on peut avoir cette sensation de « il y a le peuple élu d'un côté et il y a ceux qui souffrent de l'autre côté et ce n'est pas normal ». Sauf que quand on regarde vraiment l'ensemble de l'histoire, on voit que Dieu était tout aussi virulent envers son propre peuple. Et il y a tout autant de passages dans le début de la Bible d'annonces de jugement contre les Israélites. Et le jugement, on n'aime pas trop ça en réalité. Sauf que c'est en réalité la raison principale, parce que Dieu est amour, que Dieu est aussi justice. Parce que de l'amour sans la justice, finalement, ce n'est pas du vrai amour. Donc, quand on déroule cette histoire de la Bible, on voit que Dieu utilise la guerre comme annonce de jugement, en laissant la possibilité que les Cananéens, comme les Israélites, reviennent à lui et ne subissent pas ce jugement. Le deuxième principe, c'est le langage militaire comme un code à déchiffrer. Je vous disais que le terme « Erem », voué à destruction, c'est globalement annoncer un génocide. Donc ça veut dire qu'il devrait y avoir plus aucun Cananéen et toutes ces autres tribus qui existent après cette guerre-là. Sauf que quand on lit un petit peu plus en détail le livre de Josué, par exemple, qui va décrire l'attaque de Jéricho et de Haï, on voit que quelques passages après l'annonce de ce génocide, après l'annonce de cette destruction totale, Dieu dit « Quand vous vous serez installés, maintenant que vous avez fait la guerre, ne vous mariez pas avec les descendants de ces peuples. » Donc s'il reste des gens avec qui se marier, ça veut dire que tout le monde n'est pas mort. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué, et puis si on lit assez vite, on peut ne pas se rendre compte exactement de ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il y a la réalité, dans l'Ancien Testament, d'un langage militaire auquel nous, on n'est pas habitués, et il faut s'en souvenir. Dans toute l'histoire du peuple hébreu qui sort d'Égypte et qui arrive en Canaan, Dieu se pose comme leur chef militaire. Il se pose comme leur roi. Et donc, il va avoir un langage royal, de type légal, c'est ce qu'on voit dans les 10 commandements, et ça, c'est très politique, et il va avoir aussi un langage de type militaire, en tant que chef militaire, et là aussi, c'est un langage auquel, à moins que vous soyez dans l'armée, on n'est pas trop habitué. Et donc, il y a parfois ce genre de métaphore militaire qui tend un petit peu à l'exagération, juste pour que les ordres soient extrêmement clairs. Mais la réalité, c'est que derrière, il y a, dans l'histoire de Jéricho et Haï, en particulier dans Josué, cette fameuse destruction totale qui dit avoir eu lieu quelques chapitres plus tôt, n'a pas eu lieu. Donc on voit encore, rien qu'avec ces deux principes, l'importance de lire la Bible dans son ensemble et de ne pas isoler des passages. Et je pense que ça aide vraiment à comprendre le Dieu à qui on voue un culte et le Dieu en qui on veut mettre notre confiance. Si on s'arrête parfois sur certains passages qui sont choquants, et on est en droit d'être choqué et à questionner un petit peu ce qui s'est passé, ça, on peut avoir une fausse idée, mais si on lit dans son ensemble, on peut avoir un petit peu plus de réponses. Donc, la guerre comme une annonce de jugement, autant contre les autres nations que contre les Israélites, parce que Dieu est un Dieu d'amour et de justice. Le langage militaire, c'est un code à déchiffrer, et ça veut dire qu'il faut faire notre propre travail, et ça veut dire parfois qu'il faut lire aussi un petit peu plus les commentaires et lire les livres historiques, et c'est un peu long et fastidieux, mais ça nous permet de mieux comprendre. Dernier principe, et je m'arrêterai là, la Bible, n'oublions jamais que c'est la révélation progressive de Dieu. Ce qui veut dire que ce qu'on découvre de Dieu et de l'histoire de l'humanité dans les tout premiers chapitres de la Bible, ce n'est pas la révélation complète. Et qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au dernier chapitre de la Bible pour vraiment comprendre Dieu dans son ensemble et pour avoir une idée globale du message. Alors oui, il y a beaucoup de passages violents et dérangeants. Et si on aime bien lire un livre de la première page à la dernière, c'est assez difficile de lire les premières, en fait. Mais si on arrive jusqu'à la dernière, on voit que Dieu se révèle comme un Dieu qui juge et comme un Dieu qui aime, comme un Dieu qui juge et comme un Dieu qui sauve. Et parfois, et souvent, c'est le message de l'Évangile, son jugement, c'est son salut. Si on fait un survol de la Bible, on voit que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu condamne le meurtre. Genèse 9:6, « Je redemanderai la vie de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'humain à son image. » Et les Cananéens aussi. Et n'importe quelle nation, il les a fait à son image et Dieu condamne le meurtre. Apocalypse 21:4, Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui a existé avant a disparu. Si on garde ces balises du tout début de la Genèse jusqu'à la toute fin de l'Apocalypse, un Dieu qui condamne le meurtre, un Dieu qui a créé avec amour chaque être humain à son image, mais qui est complètement, pleinement amour et complètement, pleinement justice, on a un Dieu qui cherche en fait à réconcilier et le fait de juger le mal dans le monde, comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure en quelques extraits de ce qui peut se passer d'horrible en Afghanistan, en Iran, au Pakistan, ou même dans nos propres vies, mais un Dieu qui ne veut pas que cette justice et ce jugement soient périssables pour nous. Et c'est pourquoi Dieu va encore plus loin, il va jusqu'à subir la violence en notre nom. Et c'est le cœur du message de l'Évangile et le cœur de la révélation progressive du tout début de la Bible jusqu'à la toute fin de la Bible. C'est le message qu'on porte en tant qu'espérance, en tant que chrétien, et que je vous invite à méditer ces jours-ci, à méditer dans votre vie personnelle et à chercher un petit peu si jamais vous n'êtes pas convaincu de ce passage. De ce message. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour subir ce que chaque être humain aurait dû subir comme jugement par rapport à tout ce qu'on a fait de mal, par rapport à ce que l'humanité fait de mal, par rapport au fait qu'on galère et qu'on ne fait jamais les choses qu'il faudrait faire. Dieu lui-même est prêt à prendre sur lui ce jugement et donc à être pleinement justice et pleinement amour en la personne de Jésus. Si on est révolté face à un Dieu qui parfois a l'air de commander des choses atroces, rappelons-nous que ce même Dieu de Deutéronome, de Josué, est le Dieu qui a été prêt à prendre sur lui des choses atroces, à prendre sur lui notre misère, notre souffrance, nos problèmes, et à mourir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ou elle est la vie éternelle. C'était très rapide. C'était, je l'espère, peut-être intéressant par bribes. Peut-être que vous avez tout oublié et c'est pas grave. Si vous n'avez retenu que Jean 3:16, c'est le plus important. En tout cas, je vous encourage à Posez des questions au texte quand vous êtes face à des passages de la Bible que vous ne comprenez pas. À poser des questions à Dieu quand vous êtes face à un Dieu que vous ne comprenez pas. Et c'est normal qu'on ne comprenne pas, hein. Il est Dieu et nous on est nous. Mais peut-être qu'avec ces quelques principes-là et d'autres que vous pourrez trouver au fil de vos lectures, vous continuerez d'avoir confiance en ce Dieu qui se révèle à nous et qui nous laisse la Bible pour qu'on puisse apprendre à le connaître, pour qu'on puisse apprendre à se connaître et pour qu'on puisse grandir en tant que son Église, en tant que son peuple qui lui faisons confiance. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous remercie de votre écoute.